Bonjour, c'est Sonia Kronlund. Les pieds sur terre, c'est des histoires, des enquêtes, des reportages. Et en fin de semaine, je vous propose en bonus des épisodes forts, marquants ou touchants à redécouvrir.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Leur nom est composé à partir de l'allemand Leben, vie, et Born, fontaine, donc fontaine de vie. Ce sont pourtant de funestes incarnations de l'obsession morbide pour la pureté de la race aryenne qui a conduit les nazis aux pires atrocités. Ainsi, dans ces Lebensborn ou pouponnières du Troisième Reich, accouchent des femmes sélectionnées selon les critères de la pureté aryenne. Vous n'entendez pas les guillemets, mais ils y sont en gros. Les géniteurs sont souvent des officiers SS triés sur le volet d'un point de vue racial et dont le pédigré aryen guillemets doit remonter au début du 19e siècle. Dans ces maternités, se fabriquent donc des enfants soi-disant parfaits, d'une race supérieure ou super-race, susceptible de régénérer la race aryenne. Je précise que la pureté de la soi-disant race répond à plusieurs critères, mais aussi qu'il y a des niveaux de pureté selon les peuples, les plus purs étant les personnes venues des pays nordiques, selon l'idéologie nazie. Le projet est imaginé par Himmler en 1935 pour encourager de façon eugéniste la natalité, puis il se développe de façon de plus en plus proactive. En dehors d'Allemagne, dans les pays dits conquis, les enfants jugés suffisamment aryens sont parfois enlevés à leurs parents ou bien abandonnés par ces derniers pour être placés dans ces centres. Ainsi, se sont créés pour des durées plus ou moins longues une dizaine de Lebensborn en Norvège, 3 en Autriche, 2 au Danemark, 1 aux Pays-Bas, 1 en France et 1 en Belgique, connu sous le nom de maternité des Ardennes. Il faut avoir ces faits à l'esprit pour comprendre toute la portée de l'histoire que Gisèle raconte aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, suivie de la façon dont son fils Mathieu l'a reçue et vécue à son tour. Née dans un Lebensborn, c'est un récit à deux voix proposé par Leila Djitli.
Je m'appelle Gisèle Marc-Laurent Nyango. Je suis née le 11-10-1943. J'ai habité dans un petit village de la Meuse, 300 habitants, c'est Jouy-sous-les-Côtes, où j'ai été scolarisée. J'ai vécu là jusqu'à mon adolescence, dans notre campagne adorée. Alors, cette histoire a débuté, j'ai appris mon histoire, en fait, quand j'avais 10-11 ans, dans la cour de l'école de mon village. Les enfants étaient rassemblés, rigolés, nanana. Et il y en a un qui dit, mais au fait, toi, c'est pas tes parents. T'as été adopté. Et tout le monde ricanait, oui, ta mère, c'était une femme de rue, etc. T'étais retiré de tes parents parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour t'élever. T'étais mal soigné, etc. Ça m'est tombé dessus, vraiment, vraiment la catastrophe. Ouh là, un choc émotionnel très, très important. Dans la cour, comme ça, bon, alors je suis rentrée chez mes parents. J'ai demandé à ma mère, ben, c'est vrai. Elle m'a dit, ben oui, c'est vrai. Mais on ne te l'avait pas dit parce que, bon, t'étais trop petite. Donc, elle est allée chercher le dossier dans le placard de la chambre où on mettait les papiers. Elle m'a montré mon dossier cartonné. Elle m'a montré bon, mon nom, mon prénom, adopté Marc Laurent, mon nom d'enfant, c'était marqué Magula Gisela. Mais c'est mon prénom, c'est Gisèle. En réalité, je suis née Gisela. Le département de la Meuse a francisé nos prénoms en disant, en mettant Gisèle. Il y avait une fiche médicale, parce que j'étais suivie par les médecins. Bon. Mais sur les origines, rien du tout. Ma mère m'avait dit, eh ben, tu parlais allemand. Donc, c'est que tu venais d'Allemagne. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Hein. Il n'y a rien d'autre dedans. Et donc, ma mère m'a dit, mais non, c'est bon, ne te fais pas de soucis. Enfin, voilà, ce qu'on peut dire, hein, bon. Mais alors, c'est un choc terrible. Ça m'a tellement choquée que je n'ai pas voulu m'y intéresser parce que j'étais choquée. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas savoir, parce que j'allais voir quand même de temps en temps mon dossier quand maman n'était pas là, mes parents, pour revérifier. Mais c'était la réalité, quoi. Mais je n'ai pas posé de questions. Elle sentait bien que j'avais le mur devant moi. Et elle ne pouvait jamais en parler parce que je ne voulais pas. Je voulais vivre ma vie, je voulais ne pas être déséquilibrée. Et puis, la vie a continué. Puis j'ai quand même continué à travailler à l'école. Je suis allée au collège technique à Commercy. Parce qu'à l'époque, comme mon père travaillait à l'usine à Commercy, il était ouvrier, maman était à la maison. Les enfants de ces milieux-là n'allaient pas trop dans les collèges supérieurs. Ils allaient au collège technique. Enfin, je suis quand même allé au collège technique. Tout le monde savait que j'avais été adoptée, hein, parce que dans les petits villages. On en a dit pas mal sur mon compte. Hein. Elle vient en Allemagne, non, c'est pas vrai. Enfin, vous savez, dans les villages, toute personne étrangère est montrée du doigt. Si vous n'êtes pas du village, ou là. Puis il y a quand même toute la pression de l'école, hein, des élèves de l'école. Hein. Et puis à 17-18 ans, ce dossier commençait à me perturber. J'ai dit, il faut que tu vives. T'as pas le choix. Ou tu veux t'embarrasser la vie avec ton histoire qui va te traîner, qui va te pourrir la vie tout le temps, ou alors tu vis. Donc j'ai fait mon choix. J'ai brûlé mon dossier. Alors elle avait une cuisinière à feu de bois, et je me revois en train de prendre mon dossier et me mettre dans le feu. Alors, tout est parti. Je ne voulais plus entendre parler de cette histoire-là qui m'empêchait de vivre. Donc j'ai mis une chape de plomb sur cette histoire. Voilà. Puis après j'ai fait l'école d'infirmière, j'ai travaillé à l'hôpital 5 ans en réanimation. Après j'ai quitté l'hôpital et j'ai fait l'école de puériculture, j'ai ouvert 2 crèches collectives, j'ai dirigé une grosse crèche de 100 enfants. Et après je me suis mariée, j'ai 4 enfants, une fille et 3 garçons. J'ai arrêté de travailler. J'ai pris ma retraite de fonctionnaire, j'avais 38 ans. Et comme ça, je pouvais m'occuper de mes enfants. Je les ai gardés pendant 6 ans. Et après, j'ai retravaillé à mi-temps, à la boucherie Socopa.
Et pendant tout ce temps-là, toutes ces années de travail, vous ne pensez plus du tout à ce dossier d'adoption que vous avez brûlé à 17 ans.
J'ai tout occulté, hein. Alors, mon père adoptif est décédé en 1975. Là, ça a commencé à bouger. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai jamais dit à mes enfants que j'avais été adoptée. Mon mari était au courant que j'avais été adoptée, mais mes enfants, je ne leur avais pas dit. Le stress commence. Comment je vais faire ? Il faut que je leur dise. Et le soir même, je me suis armée de courage. Mes enfants sont arrivés. J'ai le tour de la table, je réannonce que j'ai été adoptée. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Pourquoi tu ne nous as jamais parlé ? Mais moi, j'en ai jamais parlé aussi, dans le sens que je ne voulais pas que mes enfants disent à leur grand-mère, si elle leur faisait une réflexion, tu n'es pas notre grand-mère. Parce que les enfants, c'est capable, hein, 5-6 ans, tu n'es pas ma grand-mère, tu n'as rien à me dire. Et puis après, ma mère vieillissait, elle part en maison de retraite. J'allais la voir presque tous les jours. Et puis, ma fille. Virginie et moi, on va voir la grand-mère qui décède dans nos bras. Donc, on fait les obsèques. Le lendemain, je rencontre ma cousine qui habite en face de chez maman. Oh, je lui dis, écoute, faut que je te demande si tu sais pourquoi j'ai été adoptée, retirée de mes parents, pourquoi ? Pour mauvais traitement, etc. Tu sais, ça me perturbe. Et c'est là qu'elle me dit, c'était pas du tout ce qu'on te raconte, t'es un enfant de la guerre et tu venais d'Allemagne. Et tu parlais allemand. Hein, 3 ans, on commence à dire des mots. Et c'est son père à elle qui, avec maman, sont allés me chercher à Commercy. Et à Commercy, il y avait la pouponnière. Tout, on était dans la pouponnière. Et maman me dit, tu m'as tendu les bras. Et c'est comme ça que j'ai été prise. Je suis arrivée dans mon village. Puis j'ai grandi là. Jusqu'à l'âge de 10 ans, aucun problème. Oh, ben j'ai dit, écoute, c'est formidable alors. Et puis... Elle m'a souligné qu'elle avait rencontré une personne Walter Bosser, qui avait ouvert son dossier, lui. Et il avait écrit à Rolsen, la Croix-Rouge en Allemagne, qui lui avait transmis la liste des enfants qui étaient arrivés à Commercy. Alors, nous, on était 17 enfants venant d'Allemagne, et on était placés dans la Meuse pour repeupler la Meuse. Et sur le trajet, il y avait au moins 5 enfants qui sont morts. Donc, il avait pris le même train que moi. Il lui avait montré la liste des enfants qui étaient dans ce train, entre autres, lui et moi. C'est comme ça qu'il a eu mon nom. Et après, j'ai retrouvé Walter, qui m'a donné l'adresse de Harolsen, le centre de Croix-Rouge d'Allemagne, où sur lequel étaient notés tous les enfants qui avaient été récupérés des camps. Donc, moi, j'étais dessus. En 2005, j'ai écrit à Harolsen, le centre de Croix-Rouge, pour savoir mon acte de naissance. Et c'est là qu'ils m'ont répondu que j'étais née le 11 octobre 43 à Vigimont, en Belgique. Et j'étais née dans une pouponnière, le Besborn, pouponnière nazie. Donc, ce qui me tombe dessus, c'est que je fais partie de la politique raciale allemande. Quand j'ai fait mes études de puéricultrice, on a parlé de ces enfants-là. On nous apprenait ça, hein, le génisme, etc. La recherche de la race aryenne. Donc, on était une création de race pure qui allait être élevée pour détruire les pauvres juifs. C'est terrible. Hein. C'est terrible dans ce sens que vous faites partie directement de la politique nazie, de l'idéologie nazie. La destruction de l'être qui est différent de l'autre, et ça ne correspond pas du tout à ce que moi j'ai vécu, et ça, non, c'est pas possible. Au début, j'ai cru que j'allais mourir. Tellement j'étais choqué, c'est l'horreur. Mais là, heureusement que j'avais 63 ans, sinon je ne serais plus là, je pense. J'ai des enfants quand même super parce qu'ils ont bien intégré. Bon, mais ils étaient libres de faire des recherches. Mathieu s'est lancé dans les recherches, Grégoire aussi. Alors, ma mère est d'origine hongroise. On est allé d'ailleurs en Hongrie au mois d'octobre chercher son acte de naissance près de Budapest. Et les grands-parents étaient à Budapest. Donc on a les états civils des deux-là. Ils étaient commerçants sur Budapest et ils ont quitté la Hongrie en 1926. Pour venir à Bruxelles, c'était un peu la guerre un peu là-bas. Hein, c'était donc je ne peux pas me permettre de porter un jugement. Je n'ai pas de jugement à porter, mais c'est quand même difficile pour moi d'accepter qu'une mère abandonne son enfant, même si elle abandonne son enfant 1 an, 2 ans après, elle va le rechercher. Mais j'ai jamais su ce qu'elle était venue me rechercher. Alors mon père, c'est un heureux, pas de charge de famille. Si c'est un nazi, il procréait. C'est tout. Puis partait. Mais là, je ne sais pas. On ne sait pas. La mère, on sait pour sa naissance. Elle aurait travaillé dans une usine à Sarrebourg. Peut-être que lui a travaillé aussi à Sarrebourg. Mais maintenant, j'ai la haine pour ma mère. Parce qu'elle ne m'a pas aidée dans la vie. Hein. Elle m'a mis au monde, elle m'a mis dans le Besborn. Allez hop, débrouille-toi, je ne te connais plus. Enfin. La mère, ça passe encore moins que le père. Je ne peux pas accepter qu'on puisse abandonner son enfant. On peut l'abandonner momentanément, parce qu'il y en a un souci, mais on va le rechercher. Alors, cette histoire, elle est horrible. Et le mot n'est pas assez fort. Je ne supporte pas. Mais je vis avec, hein, je suis bien obligée. Donc pour moi, cette histoire-là avec les nazis, c'est comme si j'avais un ulcère dans mon corps qui s'ouvre et qui se ferme de temps en temps. Mais surtout qui s'ouvre souvent. Une maladie, on peut la guérir. Un ulcère, l'ulcère, ça ronge. Thank you.
Je m'appelle Mathieu Nyango. Je suis le fils de Gisèle Nyango, qui est né dans un Lebensborn, dans une pouponnière nazie. Alors d'abord, il y a deux grands temps, en fait. Le premier, c'est j'ai 23 ans. Et ma mère m'appelle et elle m'apprend que ma grand-mère est décédée. Donc elle avait 95 ans. On est quatre enfants. On adorait notre grand-mère. On était très attachés à elle. C'était une paysanne dans la Meuse et tout ça. Et puis elle avait réuni mes frères et sœurs la veille au soir. Et puis j'arrive au moment du déjeuner dans la maison de ma grand-mère. Et puis l'ambiance était bizarre. Alors on était tristes. Hein. Mais il y avait autre chose de bizarre. Alors j'ai un de mes frères qui est très bavard. Il disait rien. Mon frère Grégoire, bon. Et puis tout le monde me fuyait un peu, quoi. Y compris ma mère qui fixe beaucoup. Elle a un regard très, très soutenu comme ça. C'est très impressionnant. Bon. Et là, elle me regardait pas. Bon. Et puis à un moment, elle me sort au milieu d'une phrase que je faisais. Elle dit, mais il faut que je te dise, je suis arrivé ici à 2 ans et demi. Et là, j'ai pas compris. En fait, pendant 30 vraies secondes, j'ai regardé mon autre frère, Gabriel. J'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, quoi. Et puis à un moment, j'ai compris. J'ai dit, en fait, elle a été adoptée. Et ça, c'était un choc énorme parce que, bon, voilà, moi, je m'y attendais absolument pas. J'avais aucune suspicion de ce point de vue-là. Ça, c'était la première étape. Ça, c'était le vrai choc. Mais le deuxième, c'est Lebensborn. Mais je m'en souviens pas. J'ai complètement oublié. J'ai totalement effacé. Je ne sais pas du tout dans quelles circonstances je l'ai appris. J'ai totalement occulté, on peut le dire. Mais parce que ça semble totalement fou, en fait, tellement... Les bonnes bandes, je n'avais pas du tout ce que c'était. Ce que je sais, c'est qu'assez vite, on a fait des recherches aux archives sur son passé. Il y avait son dossier de la DAS. Mais comme elle avait été adoptée enfant... Bah, le dossier de la DAS, il s'arrête assez peu après son adoption. Il y a une assistante sociale qui vient quelques temps pour voir si que ça se passe bien. Puis après, le dossier s'arrête. Donc pendant 2 ans, il y a quand même des éléments. Mais ça n'allait pas plus loin. Donc moi, je suis très intéressé par ces recherches. Je sais pas, j'en éprouve le besoin. Et puis, il y a 3 ans, j'ai repris un peu le flambeau des recherches sur la mère, plutôt hein, sur les ancêtres. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Quelles sont les hypothèses? Il y a encore plein de choses à découvrir. Donc on est allé jusqu'à la Hongrie avec ma mère et mon frère Grégoire. Et en fait, elles étaient 2 sœurs pendant la guerre. Il y en a une qui est née en 1919, la grande sœur, et l'autre en 1921, la mère de ma mère, deux Hongroises, qui émigrent en Belgique en 1927 avec leurs parents. Et puis le père décède jeune, mon grand arrière-grand-père, était soldat dans l'armée austro-hongroise. Et il est blessé en 1915. Et quelques mois avant, il est diplômé d'une école de commerce. Et en fait, il ingère du gaz moutarde et c'est ça qui va le tuer plus tard. Donc cette famille, elle est complètement déstructurée par la Première Guerre. Et donc ils partent en Belgique. Et puis après, ils enchaînent vraiment les malheurs. Le père meurt, la mère n'arrive pas à gérer. Donc mon arrière-grand-mère et ma grand-mère et ma grande-tante, elles sont un petit peu perdues comme ça en Belgique. Et puis elles étaient apatrides un moment pratiquement. La Belgique voulait les expulser, la Hongrie n'en voulait pas. On a retrouvé tous ces échanges entre les administrations, et elles tombent dans une misère noire, il se trouve qu'elles parlent allemand couramment, et elles tombent dans l'univers nazi, quoi, SS. Je ne sais pas si elles n'ont pas un peu de rancœur vis-à-vis de la Belgique, et puis les Hongrois sont des alliés des nazis à l'époque. Voilà, donc il y a peut-être un petit peu de ça. J'essaie de comprendre pourquoi elle a fait ça. L'abandon, le Lebensborn, quel a été le cheminement de cette fille qui avait 20 ans dans la guerre, qui a une histoire terrible, très douloureuse. Bon, bah là, avec ma mère, on n'est pas forcément d'accord. Elle résiste, elle a du mal à lui pardonner. Elle trouve ça trop terrible comme geste. Mais vous savez, elle était directrice de crèche dans la petite enfance, donc... Pour elle, c'est difficile de comprendre qu'on puisse faire quelque chose comme ça. Alors, l'autre sœur, elle n'a pas abandonné sa fille. Elle a un petit peu abandonné, elle l'a mise en nourrice, mais elle l'a récupérée quand elle avait 10 ans. Donc, elle n'arrive pas à comprendre. Euh, Ma mère, elle s'est mariée avec un Ivoirien. donc mon père, dans les années 70 en 72, je crois, hein, c'est l'année de naissance de ma sœur. Et ils étaient très amoureux. C'est totalement invraisemblable, en fait. Elle se marie avec un noir, elle fait des métisses. Alors, c'est surtout les métisses qu'en plus les nazis détestaient. Les noirs, c'est moins clair. J'ai trouvé que c'était... Quand j'ai regardé un peu dans la littérature, c'est moins clair. Dans Mein Kampf, il y a des insultes, mais c'est contre les métisses qui ont été faits dans la Ruhr avec l'occupation. Parce que, en fait, les armées qui ont occupé la Ruhr pour faire payer les amendes de la Première Guerre mondiale, c'était des armées coloniales, c'était des noirs. Et ça a été très mal vécu par la population allemande. Ils ont dit que c'était vraiment une humiliation, qu'on envoyait les derniers des derniers. Ce qui les scandalise le plus, c'est le mélange des sangs. Ça, c'est vraiment l'horreur. Alors que les Noirs, bon, voilà, il y a quand même quelque chose. Ils sont dans des conditions dures, il y a quelque chose de... ils vivent vraiment dans la jungle ou dans le désert. Et Métis, ça, c'est vraiment la sous-race de sous-race. Et donc, ma mère, elle a produit ça. Donc, bon, j'aime bien dire ça. Nous, on est quand même, voilà, des descendants de... Hein, les petits-fils des Aryens. Bon, c'est complètement délirant, quoi. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'aussi, c'est tellement absurde, tout ça. Ce racisme-là, cet eugénisme-là, ça a tellement pas de sens. Et elle, elle l'a montré, alors, certes inconsciemment, certes sur fond d'un amour qui est un amour authentique, elle voulait rien prouver. Mais le résultat, c'est ça. Il y a un soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au SS, aux nazis. Je dis, mais en fait, quand même, quoi, mon grand-père, ma grand-mère, ils ont baigné là-dedans. Le grand-père, bon, je ne sais pas encore qui c'est, mais ça devait être un gros nazi, ça devait être un gros SS. Il a dû commettre des choses horribles. Et puis, il y a des petits-enfants, des résistants, ils sont tout souvent très fiers de ce qu'ils ont fait à juste titre de leurs grands-parents. Et pourquoi, moi, j'aurais pas honte de ce que les miens ont fait, hein, pourquoi? Il y a encore peu de temps, j'étais à un musée de la Seconde Guerre mondiale à Bruxelles. Et là, ça m'a fait mal. Là, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, il y a un étage chez les collabos, les résistants. Il y a deux, puis vous allez dans un ou l'autre. Mais dans le truc des résistants, il y avait une dame qui avait mon âge qui parlait de son grand-père qui était résistant. Elle parlait avec son fils, qui avait 8-10 ans. Elle disait, bah, tu sais, grand-père, il a fait ça. Tu sais, ils étaient très fiers. Le petit était très fier. Puis à un moment, elle va au-dessus d'un panneau. Puis moi, je cherchais, parce que c'est peut-être un SS belge. Je cherchais, je regardais... Je disais, putain, il y a peut-être mon grand-père là-dessus. On a une photo d'un homme, possiblement. Puis je regardais. Puis elle disait, bah, là, c'est les salauds, là. Et waouh, tout d'un coup, j'ai dit, putain. Elle était fière de son grand-père. Le petit était fier de ce qu'elle avait fait. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants? Tout d'un coup, j'ai eu ce flash. Parfois, c'est comme l'ulcère dont parle ma mère. Là, j'ai eu une saignée. J'ai regretté que ma compagne soit pas là parce que j'étais mal. Là, j'ai eu honte. T'as ce type qui peut-être me ressemble. En termes de caractère, peut-être dans ce qu'il a fait, peut-être qu'il aimait bien la philo, comme c'est ma formation, peut-être qu'il faisait du piano. Ouais, j'ai eu honte, là. Voilà. Donc, il y a ces sentiments un peu mêlés, mais en tout cas, il y a un sentiment de devoir que moi, j'éprouve très fortement. Et plus encore que quand je n'étais que, entre guillemets, issu de l'immigration africaine. Là, je sais que, au moins, cette vie, elle doit avoir ce sens-là. Il faut témoigner, il faut combattre. Ma mère, elle a dit, si j'avais été une juive déportée, bah, ça aurait été horrible, mais je serais du côté des victimes, quoi. Vraiment, explicitement, elle est du côté des victimes, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Elle se sent le besoin de témoigner. Elle dit, même si je dois aller au bout de mes forces, il faudra que je témoigne de ça, parce que je veux pas que ça se reproduise. Et je veux qu'aussi que les enfants des Lebensborn, on nous reconnaisse comme des victimes. Parce qu'en fait, les responsables, ils ont été jugés à Nuremberg, mais innocentés. Elle dit, bah, nous, ils nous ont arrachés à des familles, nous ont élevés n'importe comment, dans la dureté, parce que ça, on a des témoignages là-dessus. Ils voulaient qu'on devienne des bourreaux, qu'on devienne des super nazis, des super SS. Et ben ça, c'est de la maltraitance. C'est des bourreaux aussi, vis-à-vis de nous. Et donc ça, elle a dit, jusqu'au bout de mes forces, ben, je témoignerai de ça, même si ça me fait mal. Ceases to be my own, my own, my own.
C'était Né dans un Lebensborn, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Gisèle Niango, à Mathieu Niango, ainsi qu'au Théâtre de la Reine Blanche qui a programmé la pièce de théâtre Les Petits Chevaux, issue de l'histoire de Gisèle Niango. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
These double standards left me stranded and sorry, laying down.